Troisième partie. Chapitre 4. Le combat parmi les saules. Au matin, les nains rouges se montrèrent fréquemment. La haine faisait claquer leurs épaisses mâchoires et briller leurs yeux triangulaires. Ils montraient de loin leurs sagaies et leurs épieux. Ils faisaient mine de percer les ennemis, de les abattre, de leur rompre le crâne et de leur ouvrir le ventre. Et, ayant rassemblé un nouveau buisson, qu'ils arrosaient d'eau par intervalles, déjà ils le poussaient vers l'arête granitique. Le soleil était presque au haut du firmament lorsque l'homme sans épaules poussa une clameur aiguë. Il se leva, il agita les deux bras. Un cri semblable fendit l'espace et parut bondir sur le marécage. Alors, sur la rive, à grande distance, les nomades aperçurent un homme exactement pareil à celui qu'ils avaient recueilli. Il se dressait à la corne d'un champ de roseaux, il brandissait une arme inconnue. Les nains rouges aussi l'avaient aperçu. Tout de suite, un détachement se mit à sa poursuite. Déjà l'homme avait disparu derrière les roseaux. Nao, secouées d'impressions retentissantes, confuses et impétueuses, continuaient à scruter l'étendue. Pendant quelque temps, on vit courir les nains rouges sur la plaine. Puis l'immobilité et le silence retombèrent. À la longue, deux des poursuivants reparurent. Bientôt, un autre groupe de nains rouges se mit en route. Nao pressentit une aventure considérable. Le blessé la pressentait aussi, et moins obscurément. Malgré la plaie de sa cuisse, il était debout. Ses yeux opaques s'éclairaient de lueurs dansantes. Il poussait par intervalles une rauque exclamation de bête lacustre. Mystérieux, les événements se multiplièrent. Quatre fois encore, les nains rouges longèrent le marécage et disparurent. Enfin, parmi des saules et des palétuviers, on vit surgir une trentaine d'hommes et de femmes, aux têtes longues, aux torses ronds et singulièrement étroits, pendant que, de trois côtés, se décelaient des nains rouges. Un combat avait commencé. Cernés, les hommes sans épaules lançaient des sagaies, non pas directement, mais à l'aide d'un objet que les Oulamres n'avaient jamais vu et dont ils n'avaient aucune idée. C'était une baguette épaisse, de bois ou de corne, terminée par un crochet, et ce propulseur donnait aux sagaies une portée beaucoup plus grande que lorsqu'on les jetait à la main. Dans ce premier moment, les nains rouges eurent le dessous. Plusieurs gisaient sur le sol. Mais des secours arrivaient sans cesse. Les visages triangulaires surgissaient de toutes parts, même de l'abri opposé à Nao et ses compagnons. Une fureur frénétique les agitait. Ils couraient droit à la mêlée, avec de longs hurlements. Toute la prudence qu'ils avaient montrée devant les Oulamres avait disparu, peut-être parce que les hommes sans épaules leur étaient connus et qu'ils ne craignaient pas le corps à corps, peut-être aussi parce qu'une haine ancienne les surexcitait. Nao laissa se dégarnir les retranchements de l'ennemi. Sa résolution était prise depuis le commencement du combat. Il n'avait pas eu à y songer. Le tréfonds de son être le poussait, et la rancune, le dégoût d'une longue inaction, l'impression surtout que le triomphe des nains rouges serait sa propre perte. Il n'eut qu'une seule hésitation. Fallait-il abandonner le feu? Les cages entraveraient le combat. Elles seraient sans doute rompues. D'ailleurs, après la victoire, les feux ne manqueraient point, et la mort suivrait la défaite. Quand il crut le moment favorable, Nao donna des ordres brusques, et à toute vitesse, hurlant le cri de guerre, les Oulamres jaillirent de leur refuge. Quelques sagaies les effleurèrent. Déjà ils franchissaient l'abri des antagonistes. Ce fut rapide et farouche. Il y avait là une douzaine de combattants, serrés les uns contre les autres, dardant leurs épieux. Nao lança sa sagaie et son harpon, puis bondit en faisant tournoyer la massue. Trois nains rouges succombaient à l'instant où Namegao entrait dans la mêlée. Mais les épieux se détendaient avec vitesse. Chacun des Oulamres reçut une blessure, légère pourtant, car les coups étaient faiblement portés et de trop loin. Les trois massures ripostèrent ensemble. Et, voyant tomber de nouveaux guerriers, voyant aussi surgir l'homme sauvé par Nao, les nains valides s'enfuirent. Nao en abattit deux encore. Les autres réussirent à se glisser parmi les roseaux. Il ne s'attarda pas à les découvrir, impatient de joindre les hommes sans épaules. Parmi les saules, le corps à corps avait commencé. Seuls quelques guerriers, armés du propulseur, avaient pu se réfugier dans une mare d'où ils inquiétaient les nains rouges. Mais ceux-ci avaient l'avantage du nombre et de l'acharnement. Leur victoire semblait certaine. On ne pouvait la leur arracher que par une intervention foudroyante. Nam et Gao le concevaient aussi bien que le chef et bondissaient à toute vitesse. Quand ils furent proches, 12 nains rouges, 10 hommes et femmes sans épaules gisaient sur le sol. La voix de Nao s'éleva comme celle d'un lion. Il tomba d'un bloc au milieu des adversaires. Toute sa chair n'était que fureur. L'énorme massue roula sur les crânes, sur les vertèbres et dans le creux des poitrines. Quoiqu'ils eussent redouté la force du colosse, les nains rouges ne l'avaient pas imaginé si formidable. Avant qu'ils se fussent ressaisis, Nam et Gao se ruaient au combat, pendant que les hommes sans épaules, dégagés, lançaient des sagaies. Le désordre régna. Une panique arracha quelques nains rouges du champ de guerre, mais sur les cris du chef, tous se rallièrent en une seule masse, hérissée des pieux. Et il y eut une sorte de trêve. Un instinct, contraire à celui des nains, éparpillait les hommes sans épaules. Comme ils maniaient préférablement l'arme de jet, ils trouvaient avantage à se dérober. Ils rôdaient à distance, d'une allure lente et triste. De nouveau, les sagaies sifflèrent. Ceux qui n'avaient plus de munitions ramassaient des pierres minces et les adaptaient à leurs propulseurs. Nao, approuvant leur tactique, lança lui-même ses sagaies et son harpon, qu'il avait ramené de sa première attaque, et à son tour se servit de pierres. Les nains rouges conçurent que leur défaite était certaine s'ils ne revenaient au corps à corps. Ils précipitèrent la charge. Elle rencontra le vide. Les hommes sans épaules avaient reflué sur les flancs, tandis que Nao, Nam et Gao, plus lestes, atteignaient des retardataires ou des blessés et les assommaient. Si les alliés avaient été aussi véloces que les oulamres, le contact fût demeuré impossible, mais leurs longues enjambées étaient incertaines et lentes. Dès que les nains rouges se décidèrent à les poursuivre individuellement, l'avantage se déplaça. Le souffle du désastre passa. De toutes parts, les épieux s'enfonçaient aux entrailles des hommes sans épaules. Alors Nao jeta un long regard sur la mêlée. Il vit celui dont la voix guidait les nains rouges, un homme trapu, aux poils semés de neige, aux dents énormes. Il fallait l'atteindre. 15 poitrines l'enveloppaient. Un courage plus fort que la mort souleva la grande stature du nomade. Avec un grondement de roc, il prit sa course. Tout croulait sous la massue. Mais près du vieux chef, les épieux se hérissèrent. Ils fermaient la route. Il frappait au flanc du colosse. Il réussit à les abattre. D'autres nains accoururent. Alors, appelant ses compagnons, d'un effort suprême, il renversa la barrière de torse et d'armes. Il écrasa comme une noix la tête épaisse du chef. Au même instant, Nam et Gao bondissaient à son aide. Ce fut la panique. Les nains rouges connurent qu'une énergie néfaste était sur eux, et, de même qu'ils eussent combattu jusqu'au dernier à la voix du chef, ils se sentirent abandonnés quand cette voix se fut tue. Pêle-mêle, ils fuyaient, sans un regard en arrière, vers les terres natales, vers leurs lacs et leurs rivières, vers les hordes d'où ils tiraient leur courage et où ils allaient se ressaisir.